VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui. Édition du jeudi 17 octobre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Guinée, les manifestations contre un troisième mandat pour le président Alpha Condé ont fait au moins 9 morts.
En Côte d'Ivoire, ou concernant la Côte d'Ivoire, l'opposant Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale, porte plainte en Espagne après la tentative d'arrestation dont il dit avoir été l'objet.
En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a annoncé le lancement d'une première unité mêlant armée et ex-rebelles.
En Afrique du Sud, des réfugiés manifestants contre les violences xénophobes demandent au HCR la relocalisation.
Le vice-président américain Mike Pence doit s'entretenir aujourd'hui avec le président Recep Tayyip Erdogan de l'offensive turque contre les Kurdes dans le nord de la Syrie.
Ici à Washington, une réunion sur la Syrie entre le président Donald Trump et les leaders du Congrès dégénère à la Maison-Blanche en propos peu amènes.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En Guinée, les autorités ont reconnu que les manifestations qui agitent le pays depuis lundi ont eu des conséquences tragiques. Selon le ministre de l'administration du territoire, le général Bourema Condé, il a été enregistré au total environ 9 cas de décès, dont 8 dans la capitale, ainsi que de nombreux blessés. Le Front national pour la défense de la Constitution, à l'origine des manifestations, a dénombré 10 morts côté manifestants, 70 blessés par balle et près de 200 arrestations. D'autre part, comparution devant la justice d'opposants à un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Condé et inquiétude de la communauté internationale quant à l'escalade de la tension.
L'ancien chef de la rébellion ivoirienne, Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale, passé dans l'opposition, a porté plainte hier après la tentative d'arrestation à Barcelone en Espagne dont il dit avoir été l'objet, selon son avocat. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Maître Xavier Cos-Valero s'est fendu en de multiples interrogations. Nous voulons connaître la vérité, savoir ce qui s'est passé, quel corps policier a fait irruption dans sa chambre, quels étaient les ordres, les motifs. Monsieur Soro avait assuré à Valence, en Espagne, que des policiers espagnols avaient tenté de l'arrêter à son hôtel en pleine nuit, selon ses propos diffusés sur les réseaux sociaux le week-end dernier. Le 8 octobre à l'aube, vers 3h du matin, alors qu'il dormait, un groupe de policiers en uniforme et armés a fait irruption dans sa chambre. Notre client a exhibé son identité, son passeport diplomatique. Le chef apparent du groupe a appelé quelqu'un et les policiers sont partis sans donner d'explication. Le tout a duré 1h30, a précisé l'avocat, soulignant que ce témoignage de M. Soro figurait dans la plainte, ajoutant « il y a une violation de ses droits fondamentaux ». Dans sa déclaration à Valence, Soro Guillaume avait affirmé qu'il avait appelé en pleine nuit le siège d'Interpol à Lyon, en France, et que celui-ci n'était pas informé d'une procédure contre lui. Un porte-parole de la police catalane a affirmé à l'AFP ne pas avoir connaissance de tels faits et une haute source sécuritaire ivoirienne a affirmé de son côté « Je suis catégorique, ça ne vient pas de chez nous, nous n'avons pas saisi Interpol ». Ancien allié du président Alassane Ouattara, Guillaume Soro est candidat au prochain scrutin présidentiel.
Nous reviendrons sur cette candidature en seconde partie de cette édition.
En République centrafricaine, une première unité composée de militaires et d'ex-combattants de groupes rebelles va commencer sa formation. C'est le président Faustin Archange Touadéra qui a lui-même annoncé cette étape cruciale du processus de paix dans son pays. Ces unités spéciales mixtes de sécurité constituent l'un des piliers de l'accord de paix de Khartoum signé le 6 février entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés.
En République démocratique du Congo, les enquêtes se poursuivent après le crash jeudi dernier d'un Antonov 72 transportant la logistique présidentielle. Les débris de l'avion ont été retrouvés dans un village de la province de Sankoro, dans le centre du pays. Selon les premiers éléments mis à la disposition de la presse, les restes de 3 corps retrouvés sur place ont été placés dans une morgue de la ville de Kananga, dans la province du Kasaï central. Thierry Kamundi, notre correspondant à Kinshasa.
Une première délégation gouvernementale s'est rendue sur le lieu du crash hier mercredi. Cette équipe, composée notamment du ministre de la Défense, du ministre des Transports, d'un représentant du chef de l'État ainsi que des responsables militaires, y était précédée par le gouverneur de province qui, la veille, avec un premier groupe d'experts, a réussi à déterrer les restes des trois corps des victimes du drame. Le gouvernement, qui ne communique que très peu depuis le jour du crash, a simplement, dans un communiqué du ministère de l'Intérieur, appelé la population au calme et à la retenue. Les enquêtes sont présentement menées par des experts congolais avec un appui logistique de la MONUSCO. Ils promettent de tirer au clair et au plus vite cette affaire. Pour rappel, Antonov 72 avait disparu le jeudi 10 octobre dernier alors qu'il avait quitté Goma pour Kinshasa avec à son bord 8 personnes et la logistique présidentielle, d'après un communiqué de l'autorité de l'aviation civile. Les habitants de Lokoto, dans la province du Sankuru, ont découvert les débris de l'appareil le vendredi à 7 km de leur village. Kinshasa, Thierry Kambundi pour VOA Afrique.
En Afrique du Sud, plusieurs centaines de réfugiés ont manifesté hier dans la ville du Cap, dans le sud-ouest du pays. Ils demandent à être relocalisés à la suite des violences xénophobes meurtrières qui ont récemment secoué le pays. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
Sauver les vies des réfugiés avant qu'il ne soit trop tard, scandaient les manifestants devant les bureaux du HCR. L'Afrique du Sud n'est pas mieux que les pays que nous avons fui, lance Jean-Pierre Balus, un réfugié de la RDC qui ne souhaite qu'un abri pour ses enfants en vue d'une meilleure éducation. On est fatigué et on rend la vie plus facile aux Sud-Africains car nous voulons partir le plus vite possible, réclame une Burundaise Sylvia Naïmana. Chaque jour, les femmes se demandent si elles vont revoir leur mari ou leurs enfants. S'inquiète-t-elle, nos papiers sont inutiles, ils ne sont pas reconnus, on ne peut pas trouver du travail, dénonce Sylvia. Depuis une semaine, des centaines de réfugiés campent devant les bureaux du HCR au Cap et à Pretoria, les capitales parlementaires et politiques sud-africaines, pour réclamer de l'aide, notamment de la part de l'agence onusienne, afin de quitter l'Afrique du Sud où ils ne se sentent plus en sécurité. La manifestation d'hier s'est tenue au lendemain d'une visite de deux jours du haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Filippo Grandi, qui s'est entretenu avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président Donald Trump s'en est pris vivement hier à Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, après une réunion à la Maison-Blanche sur la Syrie. L'opposition a coupé court à cette réunion, dénonçant ce qu'elle a appelé les insultes du président américain. Il s'agissait de leur première rencontre officielle depuis que Mme Pelosi a lancé le 24 septembre une procédure explosive de destitution à son encontre.
Le vice-président Mike Pence, à la tête d'une délégation incluant le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, doit être reçu aujourd'hui par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Son objectif, selon le président Trump, obtenir d'Ankara l'arrêt de son offensive dans le nord de la Syrie contre la milice kurde des unités de protection du peuple, soutenue par les pays occidentaux, mais qualifiée de terroriste par Ankara.
En Syrie même, Mazloum Abdia, le chef des FDS, les forces démocratiques syriennes dominées par les combattants kurdes, a annoncé hier soir le gel des opérations contre le groupe État islamique, passé dans la clandestinité depuis la chute de son califat en mars. Les précisions de John Linden.
Nous avons gelé toutes nos activités contre Daesh, déclare Mazloum Abdi dans un entretien télévisé sur la chaîne kurde Ronahi. Les FDS se contenteront d'opérations défensives face à Daesh, ajoute-t-il. Cette déclaration intervient alors que la Turquie mène depuis le 9 octobre une offensive contre les zones kurdes dans le nord de la Syrie, d'où se sont retirées les forces américaines. Après la chute de son califat à l'issue d'une longue bataille menée par les forces kurdes soutenues par Washington, le groupe État islamique a muté en organisation clandestine, œuvrant à travers le vaste désert syrien. Au cours des derniers mois, l'organisation djihadiste a revendiqué plusieurs attaques meurtrières dans des zones prises par les FDS, mais aussi contre les forces du régime. La dernière attaque en date a fait 6 morts le 11 octobre dans la ville de Gamishli. Depuis mars, les FDS sont lancés dans une traque des djihadistes encore en liberté en Syrie, notamment dans la province de Deir ez-Zor dans l'est du pays. Les forces kurdes détiennent 12 000 djihadistes, dont 2 500 à 3 000 étrangers, ainsi que des dizaines de milliers des civils liés au groupe État islamique.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Quatre diplomates américains ont ouvert des comptes dans une banque au Soudan pour essayer d'attirer les investissements internationaux dans ce pays à l'économie malade. C'est la première fois qu'une telle chose arrive depuis les sanctions économiques que les États-Unis avaient imposées au Soudan pendant des décennies et qui ont été levées en 2017. En ouvrant des comptes bancaires, les Américains veulent montrer que le Soudan est ouvert aux affaires et que les banques internationales et les entreprises sont de nouveau les bienvenues dans le pays. Le Mali s'attend à récolter plus de 11 millions de tonnes de céréales et 800 000 tonnes de coton-graines au titre de la campagne agricole de cette année, révèle le site MaliJet. Cette production est supérieure à celle de l'an dernier, soit une croissance de 10%. Toutefois, les producteurs dénoncent des difficultés rencontrées au cours de cette année, notamment celles liées à l'acheminement des intrants agricoles. Pour terminer, la Banque mondiale encourage les pays signataires de la zone de libre-échange continentale en Afrique à faire preuve de pragmatisme pour que ce traité puisse être pleinement mis en œuvre et apporter d'importants bénéfices économiques au continent. D'après la Banque mondiale, pour que cet accord commercial fonctionne, il est indispensable qu'il y ait une harmonisation des droits de douane, des procédures douanières et frontalières suffisamment efficaces pouvant permettre le passage de marchandises frontières. La zone de libre-échange devrait démarrer à partir du 1er juillet 2020 et augmenter de près de 60% le commerce intra-africain à l'horizon 2022.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Un amical Algérie-France organisé dans un futur proche.
Il y aura très certainement dans un futur, on va dire proche, un France-Algérie, a déclaré le président de la Fédération algérienne, Kheireddine Zetchi, après la victoire des Fenech contre la Colombie 3-0 mardi à Lille. Ce match se passera en Algérie, a précisé le sélectionneur algérien Djamel Belmadi. Les deux présidents de fédération se sont rencontrés lundi à Paris pour parler du projet du match amical entre les deux sélections en Algérie, mais aucune décision n'a été prise. Ils ont prévu d'évoquer cette perspective à l'occasion d'une visite de Noël Legraette en Algérie au cours du premier trimestre 2020, hautement symbolique en raison de l'histoire commune aux deux pays. La seule rencontre France-Algérie a eu lieu en octobre 2001. Le match avait été interrompu après l'envahissement du terrain par des supporters algériens alors que le score était de 4-1 pour la France.
La Lazio sanctionnée par l'UEFA pour comportement raciste de ses fans.
La Lazio Rome devra fermer 4 sections des tribunes du stade olympique pour la réception du Celtic en Ligue Europa en raison du comportement raciste de ses supporters lors du match contre Rennes. Le club italien a aussi été frappé d'une amende de 20 000 euros d'un match à huis clos avec sursis et devra afficher la bannière hashtag École Game de l'UEFA pour la venue du Celtic le 7 novembre. L'instance européenne a ouvert une enquête après que des supporters de la Lazio ont fait le salut nazi lors de la victoire sur le club français de Rennes 2-1. La Lazio a protesté contre, je cite, une sanction très sévère qui n'a pas pris en compte la condamnation par le club contre le comportement raciste de quelques irresponsables.
La Liga demande à jouer le prochain Classico Barça-Real à Madrid.
La Liga espagnole a demandé à la fédération que le prochain Classico prévu samedi 26 octobre à Barcelone puisse se jouer à Madrid après les manifestations indépendantistes de mardi soir en Catalogne. La Liga a fait cette demande sur la base du règlement de la fédération concernant les cas de force majeure. La fédération a indiqué avoir reçu cette demande et précisé que les deux clubs avaient jusqu'à lundi pour remettre leurs observations avant la prise d'une décision. Selon le calendrier actuel, le Classico doit se jouer samedi 26 octobre à 11h temps universel au Camp Nou de Barcelone. Selon la presse, les partis et associations indépendantistes envisagent de convoquer une grande manifestation à cette date à Barcelone.
Messi a reçu son 6e soulier d'or européen.
Le capitaine du Barça a reçu à Barcelone la récompense annuelle attribuée au meilleur marqueur des championnats européens. Lionel Messi, qui a inscrit 36 buts la saison passée, est talonné de 3 buts par Kylian Mbappé du PSG avec son 3e soulier d'or consécutif après 2010, 2012 et 2013. La Pulga a encore pris un peu plus d'avance au palmarès du trophée sur son éternel rival Cristiano Ronaldo, qui en compte 4, tandis que son coéquipier actuel, l'Uruguayen Luis Suarez, a enlevé 2 souliers d'or en 2014 et 2016. Ce trophée, on le rappelle, a été créé en 1967.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. C'est officiel, Guillaume Soro, l'ancien chef rebelle et ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, est candidat à l'élection présidentielle de 2020. La réaction des Ivoiriens, les chances de M. Soro de remporter le scrutin, son poids sur la scène politique, pour répondre à ces questions, Ekia Badou a joint à Abidjan Félix Kra, membre de la société civile.
C'est une nouvelle importante parce que beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs s'attendaient à cela. Parce que depuis plusieurs mois, ses partisans le disaient à travers les sorties dans la presse et sur les réseaux sociaux. M. Soro Guillaume est une personnalité importante en Côte d'Ivoire par rapport à tout le rôle qu'il a joué depuis les années Fessy jusqu'à la rébellion et même était membre de plusieurs gouvernements et premier ministre, président de l'Assemblée nationale. C'est un événement important et c'est un acteur majeur de la vie politique en Côte d'Ivoire. Cela donc mérite l'intérêt que tout le monde peut s'accorder par rapport à cela.
Vous avez dit que c'est une personnalité très importante pour les Ivoiriens et pour la politique ivoirienne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ses chances selon vous?
Sa candidature va susciter, c'est vrai, beaucoup de passions. Il y a des gens qui attendent cela, mais il y a des gens aussi, évidemment, à qui ça ne va pas faire plaisir. Dans une démocratie, tous les citoyens ont le droit de se porter candidat, ont le droit de choisir là où ils pensent qu'ils peuvent être présents pour participer à la vie de la nation. Ça, c'est son droit. Maintenant, ce que les citoyens vont décider dans le vote, ça, c'est autre chose.
Il fait donc cavalier seul. Certains imaginaient ou espéraient qu'il allait repartir vers le parti au pouvoir, le RHDP. D'autres ont parlé d'approchement avec le FPI. Est-ce que vous auriez imaginé autre chose?
D'abord, il faut remarquer qu'il bénéficie de beaucoup de soutien. Il dispose de beaucoup d'organisations, au moins 5 organisations de la société civile en sa faveur. Ce sont évidemment des gens de la tranche d'âge de 30 à 45 ans. Mais cela dit, il y a aussi d'autres formations politiques importantes comme le RHDP, comme le PDCI, comme le FPI. Et je parie que si sa candidature venait à être maintenue, confirmée et acceptée, vraiment la bataille sera rude. Pour ma part, je pense que c'est un candidat comme tous les autres. Rien n'est gagné d'avance. Personne n'est optimiste en Côte d'Ivoire. Si on interroge même les gens du pouvoir, peut-être qu'eux ils disent qu'ils sont optimistes, mais je suis convaincu qu'ils ne sont pas tout à fait rassurés. Parce qu'il y a beaucoup de dangers qui planent, notamment concernant la commission électorale indépendante qui n'est pas consensuelle. Cela peut créer des problèmes, il peut avoir des remous. Et ça, c'est aujourd'hui c'est ce que beaucoup de gens craignent. Et qui peut même faire en sorte que l'élection même soit entachée d'irrégularité, mais pas lieu où ça. C'est une inquiétude gravissime en ce moment dans le pays.
Félix Kra, membre de la société civile ivoirienne, joint hier à Abidjan.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, nous allons aborder l'agitation politique meurtrière qui se poursuit en Guinée. La rue se mobilise contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Pourquoi la situation continue de se dégrader? Quelle solution à la crise actuelle? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Au Burundi, la situation de la santé maternelle et infantile est alarmante. Pour en savoir davantage, Eric Manirakiza a reçu dans nos studios ici à Washington le président de l'association A Better Burundi, engagé dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Valentin Kavakouré.
Les chiffres officiels, le dernier rapport démographique fait état de 334 décès pour 100 000 naissances. C'est un chiffre qui est assez élevé si vous le comparez à, par exemple, un pays comme le Japon où il tourne autour de 3 à 4 décès pour 100 000 naissances. C'est alarmant dans le sens où c'est vrai, on a les chiffres, mais je pense que c'est plus que ça, c'est un problème vraiment social qui n'a pas, à mon avis, la tension qu'elle devrait, parce que ce fléau emporte beaucoup de vie. Et souvent, la réaction est un peu de se renfermer sur soi, dans le deuil et tout ça, mais il y a très peu de gens qui poursuivent, qui s'intéressent à ça. Cela étant dit, le ministère de la Santé a beaucoup fait dans son domaine, parce que lorsque vous analysez les chiffres, juste il y a 3 ans, ce chiffre montait jusqu'à 1000 décès. Donc, il y a eu quand même une avancée, mais beaucoup reste à faire.
En quoi consiste votre action?
Concrètement, nous avons mis en place 4 programmes. Donc, le premier programme qui, pour nous, je pense, sera le programme le plus important, s'appelle Imenye. Imenye en Kirundi qui signifie « connais-toi toi-même ». Car beaucoup de nos mamans sont victimes, décèdent par ignorance. Par exemple, le cas de feu mon épouse, elle est décédée suite à une overdose d'anesthésie. Ça, c'est ce que son gynéco m'a dit, m'a donné comme information, qui a provoqué un arrêt cardiaque. Donc, si chez nous, il y avait un diagnostic précoce ou parmi les examens qu'on oblige aux mamans d'entreprendre avant lorsqu'elles tombent enceintes, de connaître leur réactivité par rapport à l'anesthésie, ou un autre facteur qui cause beaucoup de décès chez nous, c'est lors de césarienne, ce qu'on appelle le saignement, parce qu'elle saigne et le sang ne coagule pas et joue, donc elle saigne à mort. Ce sont 2 grands facteurs qui sont évitables juste par des examens qui visent à identifier ces phénomènes. Et il y a un médicament, il y a des médicaments qu'on peut prendre avant l'accouchement, un peu comme pour le VIH, où on peut prendre des médicaments pour atténuer les chances de contamination. C'est la même chose.
Donc c'est le décès de votre épouse qui vous interpelle et vous dites, je dois sauver des vies.
Oui, justement. Après une période de deuil, je me suis posé beaucoup de questions et à force de me poser des questions, j'ai constaté qu'il y avait un réel problème, que c'était pas un cas individuel, que ces décès intervenaient très fréquemment et qu'il fallait quand même faire quelque chose. De là, je me suis dit, écoute, j'ai pas pu sauver mon épouse, pourquoi pas essayer de sauver d'autres. Oui, jusqu'à maintenant, nous sommes à l'étape plus sensibilisation afin de pouvoir maintenant être opérationnel concrètement dans le domaine médical, implanter les autres programmes de suivi des femmes enceintes, d'accompagnement du premier mois jusqu'au 9e mois.
Le bébé, il se portait bien? Lui, il a été sauvé?
Oui, le Seigneur nous a fait grâce de ça. On a eu la chance d'avoir le bébé, il se porte bien. Il aura bientôt 1 an, le 24 octobre, d'ici la semaine prochaine.
C'était Valentin Kavakouré qui milite pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Il était de passage ici dans nos studios à Washington. En République du Congo, les populations hésitent à accepter les moustiquaires distribués gratuitement par les autorités grâce à un financement américain. De nombreux bénéficiaires croient que ces moustiquaires sont empoisonnés car, je cite, « c'est gratuit ». Aussi, l'ambassade des États-Unis et les autorités locales s'emploient-elles à faire passer le message exposant les bienfaits de la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Notre correspondant Arsène Séverin s'est rendu à Kinkala dans le Pool.
À la suite d'un message posté sur les réseaux sociaux, les populations, surtout celles de Brazzaville, sont restées réticentes aux moustiquaires imprégnés d'insecticides. Elles redoutent un empoisonnement en masse qui serait organisé par les autorités. Alors que, sur financement des États-Unis, le gouvernement a obtenu plus de 3 millions de moustiquaires à distribuer gratuitement. L'ambassadeur des États-Unis à Brazzaville, Todd Haskell, a dû se rendre à Kinkala dans le Pool pour dissiper la rumeur.
Well, d'abord, c'est une partie importante, je crois, de l'engagement des États-Unis dans le pool. C'est important d'utiliser, j'utilise, des autres membres de l'ambassade ici utilisent. C'est notre engagement avec nos partenaires dans le gouvernement d'encourager et de faire la distribution.
Dans le même lancé, le préfet du pool, Georges Kilébé, fait le témoignage de ne dormir que sous ce genre de moustiquaire.
Plusieurs personnes ont tenté de sabrer cette distribution en distillant des nouvelles mensongères. Moi, je peux vous rassurer que moi-même, je dors sous des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Mais depuis longtemps et je suis encore debout, j'ai 64.
Un message qui a permis à plusieurs familles de prendre les moustiquaires pour se mettre à l'abri du moustique Anopheles, vecteur du paludisme, première cause de mortalité dans le pays. Les habitants de Kinkala s'expriment.
Ce que nous avons retenu, c'est que le palud menace Kinkala. Nous venons souvent ici assister au réunion avec l'autre, le comité de santé de Kinkala. Le palud menace.
C'est bien de dormir sur les moustiquaires imprégnés pour nous protéger contre les moustiques.
Par ailleurs, un chef de quartier de Kinkala avoue son impuissance à faire respecter l'opération d'assainissement des habitations.
La population de Kinkala, c'est une population semi-rurale. En fait, l'assainissement est bel et bien là chaque mercredi, premier mercredi du mois. Ils ont l'habitude de faire leur occupation, qu'on appelle ça champêtre. C'est des maraîchers, c'est des suites, c'est des malafouchés. Là, on perd une journée vraiment pour eux, c'est embêtant, quoi.
Selon le programme national de lutte contre le paludisme, l'utilisation des moustiquaires réduit les cas des malaria. Docteur Jean Mermoz Yunduka, coordonnateur du programme PALU.
L'opération qu'on avait réalisée en 2011-2012 chez nous, on avait eu l'agréable surprise de constater que nous avons dépassé ce seuil de 20%. On avait réduit l'incidence de 75%.
L'opération de distribution en masse des moustiquaires se poursuit et la dernière remonte à 2011. De retour de Kinkala, Arsène Séverin, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a officiellement ouvert la deuxième phase de son projet phare d'infrastructure, une voie ferrée construite et financée par la Chine qui reliera à terme le port de Mombasa à l'Ouganda. Le tronçon a coûté 1,5 milliard de dollars et relie Nairobi à la ville de Naivasha, dans la vallée du Rift. Les critiques affirment que le coût du chemin de fer plonge le Kenya dans l'endettement. Reportage repris ici par Lionel Gahima.
Brandissant le drapeau kényan, le président Uhuru Kenyatta a procédé à l'inauguration du deuxième tronçon de la nouvelle voie ferrée du pays. Il est ensuite monté à bord du train pour le voyage inaugural.
Good afternoon, Your Excellency, the President. Your Excellency, First Lady, and fellow passengers.
Longue de 120 km, la nouvelle voie compte 12 stations. Des trains passagers l'emprunteront, mais le tronçon est principalement destiné au fret. Il desservira en effet un dépôt de l'intérieur du pays à partir duquel des conteneurs seront acheminés vers l'Ouganda, le Rwanda ainsi que le Soudan du Sud. À chaque gare, une foule enthousiaste attendait le président Kenyatta qui leur a promis la prospérité. Il a assuré que si le chemin de fer vient ici, le développement suivra. Aux 1,5 milliard de dollars américains de la construction de la deuxième phase s'ajoutent 3,2 milliards de dollars investis dans le tronçon Mombasa-Nairobi. Selon le président Kenyatta, ces fonds seront récupérés à travers le développement économique qu'impulsera le chemin de fer.
L'achèvement de la section Nairobi-Suswa du projet SGR devrait révolutionner le développement des zones environnantes.
Les prêts ont été obtenus auprès des banques chinoises. En retour, la Chine accorde non seulement les prêts, mais investit également au Kenya. Wu Peng est l'ambassadeur de Chine au Kenya.
Nous encourageons les entreprises chinoises à investir dans le DCI de Naivasha et dans les zones économiques spéciales.
Le chemin de fer génère actuellement 75 millions de dollars par an en passagers et en fret. À ce rythme, le prêt ne sera pas remboursé avant 60 ans. Le Kenya espère voir ses revenus augmenter une fois que le chemin de fer sera connecté aux pays voisins. Cependant, il n'y a pas de calendrier pour la construction de la dernière tranche. Les autorités n'en ont pas encore obtenu le financement.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.